Voici donc notre chapitre 11, le Gloria in Excelsis. Le fruit des recherches qui a été dégagé par les exégètes sur le Gloria in Excelsis et dont le dernier bulletin a rendu compte, a donc eu pour mérite de faire prendre conscience non seulement de l'existence authentique de sa version primitive, mais encore de la capacité que notre temps possède d'accéder à l'ensemble du texte et d'observer le déroulement de la Los Divina telle que l'avait conçu le christianisme à l'époque apostolique. De surcroît, la grande chance dont bénéficie la science liturgique contemporaine est d'avoir décelé dans le Te Deum un étonnant parallèle au Gloria in Excelsis dont l'ample développement devient source complémentaire capable de cerner davantage la pensée des concepteurs de l'hymne angélique. Certes, on sait que le Te Deum fait référence à bien d'autres textes et qu'il a bénéficié tardivement d'autres ajouts psalmiques. Il importe donc de mettre en rapport la structure primitive du Te Deum, que les auteurs sont unanimes à limiter aux 21 premiers versets, et la version alexandrine qui a donné naissance au texte actuel de l'hymne angélique. Plusieurs thèmes de réflexion seront abordés pour illustrer la parfaite identité de pensée des deux textes sacrés. Ce thème, la destination trinitaire, ce thème a déjà été évoqué partiellement la dernière fois à l'occasion de l'analyse du premier verset du Gloria in Excelsis. Aujourd'hui, grâce à l'apport des 10 premiers versets du Te Deum, il est maintenant possible de définir en profondeur la pensée laudative que le texte angélique égyptien consacre à la Sainte Trinité dans ses 8 versets introductifs. Te Deum Laudamus est d'ailleurs la réplique exacte du Laudamus Te qui, dans le Gloria in Excelsis, s'inscrit en tête des formes du culte rendu à Dieu. Mais le Te Deum dévoile plus largement la perspective dans laquelle s'est inscrit le chant des anges, en premier lieu in excelsis, secondement et simultanément sur la terre, Laudamus Te. Sur terre, le Te Deum précise que c'est la Sainte Église inspirée qui confesse le Dieu vivant et vrai. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Dans le ciel, ce sont les représentants de la milice céleste, le cœur glorieux des apôtres, la phalange des prophètes et la blanche armée des martyrs qui ont professé la foi chrétienne tout au long de leur vie. Au plus haut des cieux, in excelsis, la Los Divina en faveur du Dieu un et trine ne peut être que la proclamation incessante du célèbre trisagion d'Isaïe, Isaïe 6.3, reprise par ailleurs dans la conclusion de la préfatio festive de la Sainte Trinité pour introduire le Sanctus, qui non cessante clamare quotidie una voce dicentes. La formulation du trisagion elle-même est plus ample que celle du texte prophétique. Ce n'est plus seulement la terre qui est remplie de la gloire divine, c'est aussi le ciel. Confirmation de ce qui précède dans le Te Deum et des termes introductifs du Gloria in Excelsis, Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae tuae. Ainsi, le chant s'élève vers ce Dieu un et trine qui fait admirable a créé les hommes et plus admirablement encore les a sauvés pour les associer définitivement à la gloire par la sanctification. Le Te Deum met l'accent sur la paternité de la Sainte Trinité dans l'œuvre du salut et ce, dès l'origine du monde. Te eternum patrem omnis terra veneratur. Ce que ne fait pas Gloria in Excelsis. Par contre, les deux hymnes se retrouvent pour adresser sous une forme litanique la Los Divina à chacune des personnes de la Sainte Trinité. Le Père à qui le Gloria in excelsis attribue la royauté céleste et toute puissance, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Alors que le Te Deum insiste sur sa majesté infinie, Patrem immense majestatis. L'office dont le texte alexandrin de l'hymne angélique n'est pas déformé par la version occidentale actuelle, Domine fili unigenite Jesu Christe, et pour qui le Te Deum déploie plus d'éloquence, et votre adorable, unique et véritable Fils, Venerandum tuum verum et unicum filium, et le Saint-Esprit. C'est à son propos que pour les exégètes surgit un nouvel obstacle. Dans la version actuelle occidentale du Gloria in excelsis, l'évocation du Saint-Esprit fait partie intégrante de la conclusion doxologique de l'hymne. Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris Amen. Or, à cette place, l'incise cum Sancto Spiritu est absente de l'archétype alexandrin. En revanche, placée après le verset, Domine fili unigenite Jesu Christe, figure la mention Sancte Spiritus Dei et omnes dicimus Amen. Ce curieux Amen pourrait faire penser que le texte original de l'hymne angélique s'arrête là. Il n'en est rien. Tout se passe en effet comme si, après avoir lu successivement chacune des trois personnes de la Sainte Trinité, la glorification du Christ, Verbe de Dieu, momentanément interrompue, reprenait vigueur par l'évocation de toutes les phases du mystère rédempteur. Quitalis peccata mundi, jusqu'à la conclusion glorieuse de l'ascension, qui sedex ad exterram patris, et la volonté chrétienne de demander au divin médiateur non seulement de recevoir notre prière, mais d'avoir pitié de nous. Comment expliquer ces dispositions? Il est déjà remarquable que la structure du Te Deum soit absolument identique. Venerandum tuum verum et unicum filium. Deuxièmement, Sanctum quoque paraclitum spiritum. Versets 12 et 13. Le texte de cet hymne reprend ensuite la louange adressée au Christ, Tour rex glorie Christe, décrit la passion, la mort, la résurrection du Sauveur, et de même que le Gloria in excelsis, sa cession glorieuse à la droite du Père. L'Amen intercalé dans l'archétype alexandrin de l'hymne angélique ne peut naturellement s'interpréter que comme la manifestation de la foi chrétienne en faveur du mystère ineffable de la Trinité Sainte. Une expression ferme et insistante, et omnes dicimus, et nous disons tous, ceci en raison des hérésies qui pullulaient au cours des trois premiers siècles jusqu'au quatrième, avec les hétérodoxies ariennes et macédoniennes, l'Église sera ainsi conduite à modifier l'hymne en supprimant l'incise Sancte Spiritus Dei, juxtaposée au verset Domine Filii Unigenite, et en remaniant la conclusion de l'hymne dans un style doxologite trinitaire. Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, Amen. La confession du Tout Solus, conclusion archaïque du Gloria in excelsis. Le texte original du Gloria in excelsis s'inspire donc d'une théologie très antérieure au Concile de Nicée, qui est de 325 après Jésus-Christ. Par l'apport ultérieur d'une doxologie finale de type trinitaire au tout début du IVe siècle, sa modification apparaît aujourd'hui comme bénéfique, en ce que la louange christologique n'est plus interrompue et adopte désormais une progression ascendante et triomphale en faveur du Fils de Dieu. Or, dès l'origine, c'est bien la confession du tout solus qui sert de conclusion à l'hymne angélique. Tout solus sanctus, tout solus dominus, Jésus Christe, in gloria Dei Patris. Amen. Car vous êtes le seul saint, le seul Seigneur Jésus-Christ, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. La racine de ce texte provient de la liturgie byzantine. Avant la communion, on sait que tourné vers les fidèles, le célébrant élève l'agneau, partie centrale du pain de vie, en proclamant les choses saintes aux saints. Et le chœur répond « Un seul saint, un seul Seigneur Jésus-Christ dans la gloire de Dieu le Père ». Dans la formule archaïque de la version alexandrine, l'insiste « tout solus altissimus » ne paraît pas. Emprunté au psaume 82, verset 19, « Seul tu as nom Yahvé, très haut sur toute la terre », la formule a été introduite et appliquée au Christ par l'Église au moment de la crise arienne pour affirmer sa divinité.